Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les
tontons. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde !
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prud'homesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour à toutes et à tous, salut Marie.
Bonjour Gilles.
Voilà, nous sommes à 89 jours de la libération. Nous voilà donc de nouveau en direct dans cette émission des tontons flingueurs, voire flingués dans certains cas de figure. Nous serons jusque fin mars. Vous avez qu'à bien dû les copains.
Ouais, mais c'est les deux meilleurs quand même.
Voilà, on a gardé les deux meilleurs pour... Voilà, c'est nous. Voilà, Marie et Gilles pour vous accompagner en ce jeudi matin. Émission rediffusée, je vous le rappelle, de 19h à 20h le jeudi et de 16h à 17h le samedi après-midi. Toujours est-il que, vu l'heure qu'il est, vous pouvez, si vous êtes réveillé ou si vous êtes, je sais pas, avec vous dans vos mains, pour vous poser votre voiture, vous prenez votre portable et vous avez le droit de réagir au Marie.
Alors, ah, Marie, vous réagissez
au 05.
Ça commence par un 05.
65.
65.
49.
49.
29.
29.
94.
94.
Voilà. Vous pouvez également réagir sur le site internet de l'émission www.radiosaintafrique.com. Il n'y a aucun problème là-dessus. A priori, on aura peut-être des nouvelles du troisième tonton qui est parti. Il a raison, dilapidé, j'allais dire. Non, profiter de sa retraite à l'autre bout du monde. Il est à Chiang Mai, du côté de Chiang Mai, et non pas Shanghai. Marie qui me demandait si Shanghai et Chiang Mai, c'était la même hier.
Vous voyez, moi, Gilles qui me dit Chiang Mai, évidemment, tout le monde sait où se trouve Shanghai. C'est un truc, on y va tous les week-ends à
voilà.
Shanghai.
Mais c'est
moi,
pas Shanghai.
Pas hein non, c'est pas Shanghai.
Voilà. Allez,
c'est bien de se faire prendre pour une débile.
On est méchant dès le matin.
C'est agréable.
En fin d'émission, on aura une petite page culture parce qu'évidemment, s'approche un week-end qui va être particulièrement chargé dans la région. Il y aura pas moins de 17 ou 18 groupes en concert entre le 10 et le 11 février. Ce sera pour tout à l'heure, la page culture. Juste avant, on parlera un petit peu des auteurs, des défenses des auteurs ou défenses des multinationales. On pourrait l'appeler comme ça, évidemment, entre les fermes de méga upload, les ripostes des Anonymous, la loi Adopi, on se demande un petit peu où va la protection des droits d'auteur et puis qu'est-ce qui reste autour de la notion de droit d'auteur dans ce pays, ce sera donc en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, avant l'actu, on va faire passer un petit message d'un jeune homme ou d'un monsieur, je sais pas. Salut Polo, on sait pas si t'es jeune ou si t'es pas jeune, mais on va diffuser avec plaisir le petit mail que tu nous as envoyé sur le site. Et ça concerne une phrase de Thomas Jefferson qu'on avait balancé dans l'émission il y a quelques semaines en arrière. Et il nous a dit, à l'attention des tontons, qui en avait une question à deux balles. Et pour la culture générale, le tout, six après, c'est vous, chers auditrices et auditeurs. Une précision sur la fameuse déclaration du président Jefferson, gare au témoignage d'outre-tombe. Alors ça voudrait dire qu'on n'aurait pas bien vérifié les sources. Alors la phrase, qu'est-ce qu'elle dit grosso modo? Jefferson aurait dit « Je pense sincèrement comme vous que les établissements banquiers sont plus dangereux que des armées prêtes au combat et que le principe de dépenser de l'argent à rembourser ultérieurement sous le nom de crédit est juste une future escroquerie à grande échelle. » Il aurait écrit ça en 1816 et en compliment, il faut supprimer les titres bancaires et restituer ce qui circule à la nation à laquelle ils appartiennent, dans un autre commentaire. C'était quand même pas mal déjà pour l'époque. Toujours est-il que nous, on a relayé une phrase qui avait été un peu réécrite, un peu plus facile, dans l'air du temps, comme dit Polo, un peu plus facile à nos oreilles et qui aurait été mise en circulation en 1937, c'est-à-dire bien après la mort de Thomas de Jefferson. Donc on va faire comme au canard enchaîné, un pan sur le bec pour notre pomme, quoi.
Oui, mais c'était déjà pas mal quand même.
Ah ouais, non, c'était pas mal pour l'époque. Merci Polo pour cette rectification. Vous le savez, cette émission est un endroit particulier où on aime raconter un maximum de bêtises et voire même plus. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à nous allumer, à nous rectifier. Je rappelle le numéro 05 65 49 29
gentiment quand même,
94.
Il est tôt, s'il vous plaît. Hein.
Pour Marie, à 8h le soir, il est tôt. Nous demandons donc si spécialement pour tonton Marie, enfin pour notre tante Marie, nous allons pas enregistrer cette émission
moi,
à 23h.
Moi, je suis en forme de 23h à... C'est très bref, de 23h à 23h30, en fait. Hein.
Voilà, s'il y a possible, possibilité d'avoir un tout petit peu plus de retour au casque éventuellement. Voilà, merci beaucoup. C'est juste histoire d'entendre vibrer nos beaux organes. Commençons donc tout de suite avec l'actualité politique. Évidemment, nous sommes obligés de parler. Je disais J89 avant la libération. Marie, en ouverture, c'était une petite blague. On est à 88 ou 89 jours de l'élection présidentielle. Et évidemment, les programmes commencent à se dévoiler un petit peu. Alors, bien sûr, on va parler de cette élection parce que ça concerne tout le monde. On a beau nous seriner à longueur de temps que les Français ne sont pas intéressés, c'est totalement faux. En réalité, les gens se passionnent. Vous avez qu'à aller dans les bistrots pour voir. Tout le monde ne parle que des candidats. Ouais, pour qui tu vas voter, toi? Ouais,
c'est pas
moi,
tout
je
à fait
pas.
Juste. Hein, je
c'était une grosse provocation. C'était une grosse provoque pour voir si t'allais réagir.
Non, mais il y a sans doute peut-être des gens que ça intéresse quand même. Hein. Non, peut-être
si,
pas.
Il y a plein de gens que ça intéresse en réalité.
Ouais.
Mais même côté anar, on s'en fout. Un anar, il s'intéresse à la politique, c'est pas parce qu'il est anarchiste.
Le nanar.
D'ailleurs, un spécial dédicace et un gros bisou à notre pote Alain, s'il nous écoute, bien sûr. C'est pas parce qu'on est anarchiste qu'on s'intéresse pas à la politique, j'irais presque bien au contraire. Hein. Je vois pas cette espèce d'amalgame qui est fait entre moi, j'aime pas la politique, je suis anarchiste. T'as quelque chose à dire là-dessus?
Ouais, j'aime pas la politique, je suis anarchiste.
Les deux en même temps. Bon, d'accord, c'est tout, Marie. Bon, t'iras pas plus loin, d'accord. Alors, aujourd'hui, à 11h précisément, c'est-à-dire dans un peu plus de 55 minutes, François Hollande va officiellement annoncer son programme. Alors, comme d'habitude, cette méthode, on peut déjà s'arrêter à la méthode qui consiste pour les politiques à nous faire le buzz à chaque fois en disant on va sortir le programme à 11h et comme par hasard, à 7h du matin dans la presse, vous avez déjà des fuites, enfin, qui ne sont pas des fuites. Moscovici disait ce matin sur France Inter, non, quand même, on maîtrise le plan média. On est vachement content. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire croire que François Hollande va annoncer les mesures à 11h, puisqu'elles auront été déjà décortiquées par l'ensemble de la presse matinale, y compris nous, et on va donc s'empresser de regarder les principales mesures du programme de François Hollande, parce qu'il faudra s'intéresser quand même au programme, au-delà des petites phrases et des... Marie, je la sens, mais alors, complètement traumatisée par le sujet.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
60 engagements. 60. Il a abaissé déjà. Mitterrand, c'était 100. Lui, c'est 60. C'est beaucoup plus modeste. On sent que la période est à la modestie.
C'est l'austérité, même dans les...
Je précise quand même que c'est le Parisien aujourd'hui en France qui a eu l'exclusivité des annonces. Donc, nous sommes basés, nous, sur ce journal et puis, entre autres, sur les analyses du Monde en ligne pour voir un petit peu ce qu'il en était.
T'appelles ça un journal, le Parisien, quand même, toi?
Ah, t'es obligé. Il est quand même vachement lu. Hein, donc, journal, ça veut pas dire
qu'il... c'est quand même appelé à le Parisien que ce soit un journal.
On appelle bien le 20h de TF1 et France 2 un journal
le
soir.
C'est vrai, tu as raison.
Voilà, donc les mots des fois sont un petit peu galvaudés. Coût des mesures, 20 milliards de mesures nouvelles. Recettes, 29 milliards de suppression de niches fiscales.
Bien.
Bon, déjà là-dessus, on peut pas dire grand-chose. Alors, on va s'intéresser un petit peu. Lui, il propose pour tout ce qui touche à la relance de la production, de l'emploi et de la sacro-sainte croissance. Hein, c'est déjà dès le départ dans le titre. Alors, il veut créer une banque publique d'investissement. Ce qui a priori n'est pas particulièrement choquant, d'un livret d'épargne industrie au profit des PME. Il veut doubler le plafond du livret de développement durable, ça c'est une possibilité pour les gens.
Tu sais à quoi ça sert ce livret de développement durable? Ça sert à financer les industriels des énergies renouvelables. Je dis pas l'écologie, je dis les industriels, tous les salopards qui servent de ça. Donc ce livret, pour tous les écolos qui m'écoutent, surtout sortez vos sous de ces trucs de développement durable.
Là on est dans l'éternel débat et on a une partie tout à l'heure environnement dans l'émission, mais on est dans l'éternel débat, Marie, qui consiste à dire voilà ce qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'environnemental si les industriels ne s'emparent pas des process, ce qu'on peut faire de l'environnemental exclusivement destiné aux particuliers et ce qu'on sait surtout sortir des process à faible coût pour que le particulier puisse y accéder sans que les industriels ne s'en emparent précédemment. C'est un autre débat, un éternel débat. Donc le livret de développement durable, 6 000, il passe à 12 000 euros. Voilà. Rééquilibrage de l'impôt sur les sociétés, dont là je vais vous balancer des chiffres, j'ai pas eu trop le temps de les vérifier, mais ça doit être à peu près ça. Grosso modo, les grosses boîtes paieraient 35% d'impôt sur les sociétés, les PME ne paieraient plus que 25 ou 30, je crois. Et les TPE, par contre, les toutes petites entreprises, passeraient à 10. Donc c'est une mesure plutôt positive, c'est-à-dire qu'on commence
au
à marquer... on commence à marquer quand même une grosse différence entre les grosses boîtes et les petites boîtes. Et ça va, à mon avis, plutôt dans le bon sens pour tous les gens qui, quand même, font l'économie de ce pays, à savoir les petites boîtes.
D'accord, on était, je ne sais plus les chiffres, mais on était à 15, en dessous d'un certain seuil de bénéfices, et à 33. Donc, il ne rehausse pas tellement le
Il rehausse un petit peu en haut, il baisse un petit peu en bas.
Ouais,
mais
ouais,
ça va plutôt dans le bon sens. On peut difficilement, c'est au détriment des grandes entreprises quand même. Hein. Préservation du statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État. Donc ça, je pense quand même que c'est une mesure symbolique extrêmement forte, c'est-à-dire EDF, SNCF, La Poste, c'est un statut, ça resterait sous statut public. Il est important de se l'entendre de répéter. On verra ce qu'il en est pour le nucléaire tout à l'heure dans la partie environnement. séparation des activités des banques dites d'investissement, celles qui sont utiles à l'investissement, à l'emploi, et bannissement des banques françaises des paradis fiscaux, interdiction des produits financiers toxiques, ça je sais pas trop comment ils vont faire, et des stocks options, encadrement des bonus, et surtout surtaxation de 15% des bénéfices des banques.
Bon, mais tout ça pourquoi c'est bien. Mais
pourquoi pas,
c'est, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, hein, jusque-là, c'est difficile. Nous, on est là pour... Attention, hein, on balance, chacun se fera son opinion.
Ouais.
Hein, on balance de la source, on peut donner un avis, c'est le principe des tontons.
De toute façon, il y a rarement des... Attends, dans les trucs électoraux, il y a rarement des mesures qui paraissent aberrantes.
Mais, non, mais s'il y en a, hein, qu'on peut démonter, on ne va pas se gêner pour le faire.
Ouais, voilà, c'est
hein,
ça,
pour l'instant, ça déroule. Voilà, pour l'instant, ça déroule et on regarde ce qui est crédible ou ce qui ne l'est pas. Hein, ce qu'on essaye avec nos petites connaissances. Réduction du déficit public à 3% du PIB et retour à l'équilibre fin 2017. Alors là, moi déjà, bon voilà, on parlait des mesures qui font grincer des dents. Moi, ça me fait doucement rigoler, la réduction du déficit public à 3%. Ça sous-entend quoi, la réduction du déficit public? Ça sous-entend qu'on peut faire des économies. Ça ne veut pas dire qu'on ne dépense pas plus, ça veut dire qu'il faut gagner de l'argent pour résoudre un déficit par définition.
Je crois que c'est tourné comme ça, cette phrase.
Ah non, non, mais réduction du déficit public. Comment on réduit un déficit? Si tu dépenses autant que tu gagnes, le déficit reste constant. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, il augmente. Si tu dépenses moins que ce que tu rapportes, le déficit n'augmente pas, il baisse. Bon, comment on fait pour réduire le déficit public à 3%?
Mais de toute façon,
dans l'état actuel, non, il dit pas comment. Pour l'instant, c'est des grandes phrases.
Oui, ça
me paraît extrêmement difficile, extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Je vois pas aujourd'hui qui peut s'engager à ça. Bon, suppression de 29 milliards d'euros de niches fiscales équitablement réparties entre les ménages et les entreprises. Donc les ménages, j'en imagine, les plus riches et les entreprises les plus riches.
Ben, ça dépend.
Bon, ben, Sarko a fait des cadeaux pendant des années. Lui, il dit, on va inverser ce processus. Pourquoi pas, hein, bon. Montée en puissance du financement des priorités. Donc ils vont faire des grandes priorités jusqu'à 20 milliards d'euros. Ben, ça, c'est les 20 milliards en plus. C'est-à-dire, grosso modo, il y a des secteurs, l'innovation, des choses comme ça, dans lesquels il faut sortir du fric. Bon, pour l'instant, on ne parle pas de culture, mais j'imagine
mais
que...
Mais ils sortent d'où le fric? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Ah ben, la suppression des 29 milliards d'euros.
Ah oui, d'accord, le colle dedans, oui, d'accord.
Hein, voilà,
oui.
Simplement. Bon, voilà, donc, on imagine après, même qu'il y a 9 millions d'écart. Bon.
De toute façon, c'est super compliqué, parce que je veux dire, supprimer les niches fiscales, tu sais, c'est avec tous les trucs qu'ils ont fait qui sont très, très complexes et qui se tiennent et qui font marcher des machins économiques. Parce que les gars, par exemple, vont même des petits ménages, hein, toujours, je suis désolée, mais c'est ça qui marche en ce moment, surtout sur les travaux et les choses comme ça, qui vont donc faire marcher la filière économique. Demain, tu supprimes ça, donc ça marche plus, donc que tu fais du chômage, enfin, ou tu fermes des boîtes parce qu'il y a plus de machin. Donc c'est des espèces de trucs, c'est super compliqué, quoi, de faire
c'est
la moindre
compliqué.
Mesurette a des répercussions que je crois que c'est très difficile de les calculer sur la... Et puis personne ne prend le temps de les calculer.
Par contre, il est très clair que la réforme fiscale est fondamentale d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire que c'est quand même le truc qui va faire que les Français vont avoir la sensation qu'il y a plus de justice ou moins. C'est quelque chose de très marquant quand même dans la tête du petit, mais même du moyen d'ailleurs que nous sommes, de constater que des gens qui sont blindés de mailles sont encore moins fiscalisés qu'avant. Le fait simplement de dire on rééquilibre un peu les choses, c'est une mesure extrêmement forte, extrêmement symbolique. Après, on va pas rentrer dans le détail économique, d'abord parce que ça va faire chier tout le monde, hein, pour être très clair, et ensuite parce qu'on n'en a pas la compétence, c'est très clair également. Pour revenir à la réduction du déficit public à 3%, il faut quand même bien comprendre que pour sortir cette ânerie, Hollande, il s'est basé sur une croissance de 0,5% cette année. Mais on n'est même pas sûr de l'avoir. C'est le même chiffre que l'UMP annonce. C'est-à-dire que M. Hollande, pour annoncer ces chiffres, nous refait le coup que font absolument tous les politiques, c'est de faire des budgets prévisionnels où il se base sur une croissance toujours plus haute et toujours supérieure à ce qui est prévu. Toujours supérieure à ce qui est prévu par les institutions internationales. Donc si on fait 0,5 de croissance en 2012, on est vachement content. A priori, ce sera plus 0,1, 0,2, voire moins. Il y a même des gens qui craignent la récession. Donc à partir de ce moment-là, baser une réduction des déficits sur ce principe-là après et dire après, ouais, mais c'est la crise, on ne maîtrise pas, il y en a ras-le-bol, on retombe dans le même schéma. Là, il y a une malhonnêteté.
J'aimerais bien avoir un gars qui me dise, écoutez, ça ne va pas s'arranger tout de suite, les gars. Tu vois, un programme où on dise, écoutez, là, ça va être la merde, mais voilà, je vais faire ça et ça pour la merde. Ouais. Si je préférerais, je trouverais ça plus franc du collier.
Voilà, déjà, et si le déficit était une obsession absolue, parce qu'attention, réduire le déficit, ça veut dire aussi moins d'argent public, donc c'est un petit peu dans l'antithèse d'un programme de gauche habituel. Bon, mais pourquoi pas? Mais si l'obsession, c'est la réduction du déficit public, il faut bien comprendre qu'un type honnête, dans ce cas-là, il doit nous dire, attendez, moi, je prévois pas de croissance, je veux réduire le déficit sans tenir compte de la croissance. Est-ce que c'est possible? Moi, j'en suis convaincu. Simplement, ça se sent un peu d'honnêteté. On va trouver d'autres voies pour réduire le déficit. On ne s'appuie pas sur la sacro sacro-sainte croissance. Mmh. Rien que le fait de parler de la croissance positionne François Hollande sur le même niveau que ses collègues du centre.
Ouais, enfin, au point de vue crédibilité. Quoi. Oui, voilà.
Alors, on a un appel, donc on va faire un petit break, ça va faire du bien à tout le monde sur le programme de François Hollande. Qui est à l'eau? Qui est à l'eau? Qui est à l'appareil?
Bonjour, les tontons et la nièce.
Oh, ouais, le vieux
Gilles,
salut.
Le vieux Gilles.
Coucou.
C'est énorme.
Pardon.
Qui est énorme, Gilles?
Qu'est-ce que tu racontes, tonton? Qu'est-ce que tu racontes, tonton?
Ça fait plaisir de t'entendre.
Ben, je vous écoutais sur le net, là.
Ah ouais,
et puis,
en direct?
J'ai eu envie de venir vous voir.
En direct, c'est vrai?
Ouais, ouais.
Oh, t'es à combien de bornes, là?
Ah ben, et on écoute Radio Saint-Aff en Thaïlande, hein, faut pas croire.
Ah, c'est un truc de fou. T'entends, il y a à peine de décalage.
Ils aiment bien les gens dans le troquet où tu te trouves, là? Ça leur plaît, l'émission?
Eh ben, écoute, je suis dans une cabine, alors c'est bon. Un petit peu atténué, quand même.
Quelle heure il est, Gilles, où tu te trouves, là?
Eh bien, là, moi, j'ai 16h20, quoi.
T'as 16h20? Ah ben, ça va, ouais. on t'a pas fait lever trop tôt.
Et surtout, Gilles, il fait quelle température?
Alors, il commence à faire chaud un peu, quoi. C'est dans les 30 degrés, à peu près.
Bon, alors, dis-nous, parce que je sais quand même que le coup de fil là-bas, c'est pas donné. Ton séjour, déjà, ça se déroule bien, tes petites vacances, c'est cool?
Attends, j'ai pas tout compris.
Je dis, est-ce que ton séjour se déroule bien, est-ce que tes petites vacances sont cool?
Ah oui, tout va hyper bien. J'ai complètement perdu la notion du temps. Ça fait juste 10 jours que je suis là, mais... Je sais plus bien ni comment je m'appelle, ni où je vais, ni d'où je viens, tu vois. Donc c'est génial, il fait super beau, je me fais masser deux fois par jour, je mange vachement bien.
Tu te fais masser deux fois par jour?
Les nuits sont fraîches, on peut se reposer, il n'y a pas trop de moustiques.
Et à part nous dégoûter, tu nous appelles en fait...
Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Bah, je venais quand même mettre mon grain de sel parce que j'en ai un peu marre que vous balanciez des conneries sans moi. Donc
vas-y.
J'avais envie de,
balance, balance.
De venir m'ajouter.
Alors, tu suis l'actu quand même alors, si t'as internet, c'est bien. C'est...
Je suis l'actu par le net et d'après les sites où je vais, ça y est, notre petit président est en pleine déprime. Il est à deux doigts de faire, je sais pas, un nervous breakdown.
Ouais, pas loin, ouais.
Oh, mais ça, c'est de la manip.
C'est de la com, Gilles.
Bon, apparemment, c'est de la manip. J'ai même vu sur le net qu'il y aurait des députés UMP qui seraient prêts à faire un appel des 45, comme à une certaine époque, pour changer de candidat et mettre Bérou comme candidat.
Ah, mais attends, c'est absolument clair. J'ai sous les yeux là un politiste du mois dernier au studio où le titre, c'est Sarkozy le boulet, et le deuxième titre, c'est les dépités de l'UMP. Et alors, ça commence à balancer plein fer dans les couloirs, c'est-à-dire que tout le monde dit « Oh là là, mais halte au feu !» Il lance des appels au pied à Bérou, effectivement, on peut confirmer. Et ce serait pas surprenant si Sarkozy continue de s'écrouler dans les sondages et que Bérou passait par hasard devant, ouais, ou à même niveau, qui prenne effectivement le leadership, quoi.
Je trouve ça assez génial quand même, après tout ce qu'on a vu et entendu et subi pendant 5 ans, je trouve ça quand même un retournement de situation assez incroyable, mais c'est pas,
oui,
fait,
c'est sûr,
c'est,
oui,
pas fait. C'est pas fait, c'est pas, faut, on peut pas dire un cocorico, mais on sent quand même qu'il y a, et toute tendance, et même à droite, un tel ras-le-bol en France de ce type, de ce personnage qui n'a jamais endossé la fonction, parce que là, moi, je veux pas m'attaquer à sa politique, ça voudrait dire que je prends parti politiquement, c'est pas le rôle de c'est pas notre rôle forcément tout le temps d'avoir une opinion politique, mais là, sur le personnage, et tant pis si ça tombe une fois de plus dans les attaques contre la personne, ce type-là n'a jamais eu la stature depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président aussi nul, aussi peu représentatif du poste, quoi.
Oui, mais ouais, ouais.
Je pense qu'il marquera pas l'histoire. Marie, c'est à toi. Vas-y.
Non, je dirais rien. Je dirais des choses après. Pour moi, ça me semble assez évident ce qui est en train de se passer. C'est le pauvre petit Nicolas. Et il faut savoir qu'il y a des gens quand même qui aiment. Je sais, c'est bizarre, mais il y a des gens qui aiment Nicolas Sarkozy. Et à mon avis, ces gens-là, ben, pauvre petit Nicolas, là, qui se montre sous un angle, ben, c'est le pauvre isolé, le pauvre incompris, qui a tout donné pour ça, son pays, et qu'on comprend pas, et qui, voilà, qui est pas là pour l'argent ni pour le pouvoir. Bah oui, ben, oh, ben, je, ça va renforcer.
Ouais, on nous
a consacré sa vie à la patrie, oui.
Bah, mais c'est ça qui, ce que tu sens derrière le truc. Et je te jure que l'électorat, donc, parce qu'il y en a quand même des gens qui aiment Sarkozy, il y en a, eh bien, ça va les toucher, ça.
Nous ne pouvons que.
Pardon. Il y a le côté victime. Il y a le côté.
Exactement, ouais. Voilà. Bien, ouais.
Nous ne pouvons que suggérer aux gens qui aiment Nicolas Sarkozy de faire comme lui, d'arrêter la politique quand ils auront perdu. Il n'y a pas d'autre solution, je veux dire. C'est le truc le plus simple. Bon. Gilles, petite question plus, on va dire, internationale. Quelle est la l'atmosphère où tu te trouves là? Comment c'est la mondialisation s'est vécue comment?
C'est une autre planète. Hein. Ici, dès qu'on met les pieds en Asie, je vous le disais lors d'un proche d'un
ouais, d'une précédente, voyage, ouais.
Ouais, c'est vraiment la France est minuscule et personne ne sait qui est Sarkozy ici à part quelques spécialistes, quelques journalistes ou hommes politiques. Mais sinon, le mec de la rue, il sait tout juste où se trouve la France. Donc,
il ne sait voilà, pas où quoi. Se trouve Saint-Afrique.
Eh bien, je milite pour... j'apprends à tout le monde où se trouve Saint-Afrique, mais...
T'as pris des dur, hein, et Gilles, t'as pris des cartes de visite de la radio, j'espère?
Bien sûr, bien bon. Sûr. Mais déjà, c'est dur à prononcer en taille, Saint-Afrique, tu vois. Donc, ça marche pas, quoi. Les R ne marchent pas, ils se transforment en L, alors c'est Saint-Afrique, hein, donc déjà...
Saint-Afrique, Saint-Afrique
ah, oui. Ah oui, c'est vrai que là, ça va pas être très très simple. Saint-Afrique, ça va pas le faire, je pense. Hein. Tu as des trucs, donc, sur l'actu que tu avais entendu, dont tu voulais parler?
L'actu de la France ou de l'Europe, pas trop. Je discute avec quelques Européens que je rencontre, des Anglais, des Canadiens, tout ça, et tous disent, voilà, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on est bien ici, on va essayer de rester, quoi. Parce que c'est une sorte de paradis ultra-libéral, alors qui fait des dégâts, hein. En Thaïlande, il y a des très riches et des très pauvres. Mais les très pauvres mangent à leur faim, il n'y a pas de misère, il y en a presque moins qu'en France, quoi. On voit moins de mendiants qu'à Paris. Et du fait du climat, du fait des marchés qui regorgent de fruits, de légumes et tout, à des prix vraiment défiant toute concurrence, on peut manger vraiment très très bon marché, quoi. Donc même les gens qui ont des tout petits revenus ne crèvent pas la dalle. Et toute l'époque où, disons, une révolution façon un peu arabe avait couvé en 2010, où il y avait eu un affrontement entre les chemises jaunes et
entre les rouges et les jaunes, oui.
Voilà, qui avait fait quand même 80 morts. C'est en gros, c'est le parti du royaliste et puis ce qui reste du PC et des ouvriers, des petites gens et tout, qui sont les chemises rouges. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger. Les gens prennent les choses très bien par rapport aux inondations, disons, enfin moi je suis pas resté à Bangkok où ça a été le plus terrible, mais les gens n'aiment pas en parler. En Thaïlande, on parle pas des choses qui fâchent ou des choses tristes, on essaye de ne pas faire perdre la face à personne, ni à soi-même, ni aux gens qui sont en face de soi. Donc voilà, c'est le sourire thaï. Alors on peut critiquer, hein, bien sûr, hein, c'est un côté bisounours un peu. Ils adorent ça d'ailleurs, les bisounours, c'est des nounours partout. Mais bon, c'est quand même très agréable, les gens sourient, sont gentils. Moi j'ai de la chance, vraiment je suis dans une famille qui m'accueille. Enfin c'est vraiment au bas de l'échelle, hein. Je suis pas dans les grands hôtels, loin de là. Je vis à la taille dans une cour où il y a 5-6 familles et où on mange tous en commun, où personne crève la dalle, où ça se passe bien, quoi.
Est-ce que une question, Gilles, une question, c'est pas forcément un pays qu'on peut qualifier dans notre conception occidentale, hein, de démocratique. Comment tu ressens justement cet écart? Est-ce que finalement c'est de fait une démocratie ou pas?
C'est une démocratie dans le sens où malgré tout, la presse est libre, si tu fais pas trop de bruit, ils aiment pas le scandale, si tu veux. Alors c'est sûr que ça correspond pas, nous, à nos critères européens, hein. C'est une forme de démocratie, mais bon, la monarchie est omniprésente, personne ne critique le roi, c'est vraiment lèse-majesté.
Comme au Maroc, quoi, ouais.
Voilà, c'est vraiment intouchable, quoi, hein, c'est intouchable. Mais par rapport à ça, c'est loin d'être une dictature à la Birmane ou des choses comme ça, quoi. Maintenant, quand c'est trop le bordel, on envoie l'armée et on tire, quoi.
Ouais. Donc tout le monde se tient peinard.
C'est une bonne manière, oui.
Bon, bah écoute, Gilou, c'est super sympa d'avoir passé ce coup de téléphone d'aussi loin.
Voilà, je vous embrasse.
Bah, pareil.
C'est pour les auditeurs aussi qui me manquent, donc je leur fais plein de bisous parce que je leur enverrai pas de carte postale.
Merci beaucoup.
C'est pas gentil. Hein. Bon, je te fais des bisous quand même.
Merci beaucoup de ton coup de téléphone et à très bientôt.
Allez, peut-être à une prochaine.
Ouais, j'espère.
Ah oui, j'espère.
Puis arrête de nous envoyer des messages salacieux sur le web. Hein. Ciao.
Allez, je lis mes mails, alors vous avez le droit de m'écrire.
D'accord. Hein.
Marie, j'aimerais bien voir ton mail parce que je ne l'ai pas.
Eh bien, super. Je vais te l'envoyer et puis je t'insulterai aussi comme ça.
Voilà. Comme ça, je pourrais te demander la couleur du pantalon pour ton.
J'ai eu peur.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Allez, bonne bringue. Hein.
Des bises.
Salut.
Des bises.
Salut, ciao, ciao.
Ciao.
Voilà, c'était un petit coup de fil sympa en direct, pas enregistré comme on fait sur le Journal de France 2. Donc c'était du direct à 10h25, un appel du troisième tonton qui reviendra, je pense, quand il aura fini ses vacances.
Il nous a dit combien de kilomètres c'était ? Non, il ne l'a pas
non,
dit.
Non, j'ai pas retenu ça.
C'est un peu loin quand même.
On revient un petit peu donc après ce grand bol d'air qui fait du bien. Sur le programme, mais je vais aller assez vite, voilà, on a parlé un petit peu de la réduction du déficit public, du programme de François Hollande. La réforme fiscale, bon, je dirais pas, on s'en fout, mais enfin, il y aura une nouvelle tranche à 45% pour les gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Il y aura une augmentation, enfin c'est ce qu'il dit, de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Pour les gens qui n'ont pas trop de fric, ça peut être pas mal. Nous aurons un abaissement du plafond du quotient familial de 5% pour les ménages les plus aisés, un relèvement de l'impôt sur la fortune pour les plus gros patrimoines, et abattement sur les successions ramenées à 100 000 euros par enfant. Les pauvres, il ne leur restera que ça. Éducation et jeunesse, 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation en 5 ans. Donc ça, il n'a pas changé sur cette idée-là, mais enfin, on a bien compris que ce n'était pas forcément des postes sup, ça va être des répartitions. Augmentation de 25%, ça c'est déjà dit, j'ai déjà dit ça, 25% de l'allocation, pourquoi c'est pris en double? Retraite santé, départ à 60 ans pour ceux qui ont cotisé toutes leurs annuités. Pour le reste, négociation, il veut négocier beaucoup de choses quand même, François Hollande, hein. Il annonce beaucoup de trucs, mais l'Allemagne, il faut négocier.
C'est bien gentil, voilà. C'est tout, je te dis, il veut plus.
Ah bah, fait confiance à l'UMP pour passer 3 mois à démonter tout ce qui tient pas la route, hein.
Non,
tu vois, il n'y a même pas besoin
même
de s'en
chose,
occuper.
C'est paniquant, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est comme si toi et moi on faisait un programme.
Je confirme, ce n'est pas paniquant.
Les gens, moi je voudrais un truc, on va plus être au chômage, on va tous être contents, on va tous gagner beaucoup d'argent, on va plus travailler, et voilà. C'est toujours la même... C'est fatigant. Hein.
Alors on met fin à la défiscalisation et aux exonérations de charges sur les heures supplémentaires, sauf pour les TPE. Deuxième mesure en direction des toutes petites entreprises. Visiblement, ils commencent à comprendre que cet électorat, finalement, si on veut le garder à gauche, il va falloir s'en occuper un petit peu ou le faire revenir à gauche. Un contrat de génération, 1000 postes pour la police, la justice et la gendarmerie. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de flics en France. Voilà. Le société numérique, environnement, énergie, tout ça dans un même package. Et en fin de parcours, ça fait vachement plaisir. L'obligation pour une commune de construire des logements sociaux est portée de 20 à 25%. Déjà, les 20 personnes n'y arrivent, donc non. On est vachement content de changer l'obligation. Mixité sociale. Point. Mixité sociale.
Eh bien, on va sortir tous dans la rue, bras dessus, j'entends des chansons.
Et non, et non mou les uns et les autres. Banlieue, lancement d'opérations de renouvellement urbain.
C'est-à-dire, et mon mou.
Et non mou, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Augmentation des moyens scolaires. Présence régulière des services de police. Oui, c'est sûr que si on augmente les moyens scolaires avec des flics en plus, ça va le faire. Remplacement de la loi Hadopi par une loi, j'ai rien compris. Loi favorisant l'égalité professionnelle homme-femme, c'est joli. Ouvrir le droit au mariage et à l'adoption au couple homosexuel, pourquoi pas. Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% mais en 2025. Par contre, fermeture de la centrale de Fessenheim. Mais poursuite du chantier de l'EPR. De Flamanville, on finit vite fait avec les institutions, la loi de 1905 sur la séparation Église-État dans la Constitution. Ça fait beugler. Moi, je suis plutôt pour, moi.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État serait inscrite dans la Constitution.
Ah, pourquoi la mettre dans la Constitution ?
Parce qu'il me semble que c'est une valeur fondamentale de notre démocratie et c'est très propre à la France. Moi, je trouverais ça plutôt que de mettre les fameuses lois économiques dans la Constitution, là où elles n'ont rien à foutre. La Constitution, c'est des lois d'ordre philosophique qui définissent la manière de vivre ensemble.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et je trouve que ça a tout à fait sa place de le préciser dans la Constitution.
D'accord.
Mais ça n'est qu'un avis personnel.
Mais je trouve que, enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous reparlerons de ça. C'est pas fait la séparation de l'Église et de l'État.
C'est-à-dire que l'État
se substitue à l'Église sur certains trucs et c'est aberrant.
Ça n'a jamais été fait, ouais, bien sûr. Le droit de vote accordé aux étrangers aux élections locales, personnellement, j'espère bien, surtout quand ça fait des années qu'ils travaillent et qu'ils résident là, ils ont un peu le droit de donner leur avis. Une loi sur le non-cumul des mandats, ça fait 172 ans qu'on nous l'a fait. L'introduction d'une part de proportionnelle aux législatives, ça se discute, voilà, on va retomber dans l'éternel discours. oui, mais si vous mettez des proportionnels, vous aurez le Front National. Bon, le Front National, qu'on le veuille ou non, il pèse 20%, Mélenchon, il fait 10. Tous ces gens-là doivent être représentés.
Aujourd'hui,
doivent être représentés dans la représentation publique. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je veux dire, c'est un scandale aujourd'hui que certains candidats ne puissent pas avoir leur signature. C'est comme ça. Ça ne nous plaît pas, ce qu'ils disent. C'est même une horreur. On fera tout pour les combattre. Mais la démocratie veut que ces gens-là puissent s'exprimer. Tant pis. Si, et à mon avis, d'ailleurs, plus ils s'exprimeront et plus on les démontrera. J'en veux pour preuve l'excellente intervention de la journaliste de la 6, face, dont je ne me souviens plus du nom, face à Marine Le Pen, qui l'a déboîté pendant une heure et demie sur son programme économique, s'il vous plaît, sans jamais la taxer de racisme et compagnie. Mais quand je dis qu'elle l'a déboîté, Anne-Sophie Lapix, elle l'a déboîté. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Il y a une dizaine de jours.
Donc on peut le revoir éventuellement à
10
jours.
Je pense que sur M6, sur replay, il y a des chances. Mais c'était un grand moment de politique et elle a été extrêmement pugnace. C'était très, très intéressant. Voilà, grosso modo, on va arrêter là pour le programme de François Hollande. On aura évidemment 150 fois le temps d'y revenir. Il est évident, comme je vous disais, que l'UMP se fera un plaisir de le décortiquer pour nous. Et ce sera tout de suite plus facile de l'analyser après coup. Évidemment, on est au stade des promesses. On a 3 mois pour en parler. Toujours est-il que pour le chômage, il y a 29 700 demandeurs d'emploi de plus en décembre. Ça n'est qu'un début puisque Nicolas Sarkozy a décidé de rajouter 1000 fonctionnaires qu'il avait supprimés.
Voilà. Nico bientôt.
Voilà. Il a rajouté 1000 personnes à Pôle emploi alors qu'il en avait dégagé 1500 l'année dernière. Comme quoi la cohérence de notre politique n'est plus à démontrer. Branche environnement. Environnement. Les Chinois bientôt dans le nucléaire français. Qu'est-ce que t'en penses, Marie, toi ? C'est quoi ce titre à la bip ?
Ah, je sais pas, c'est toi qui étais censé regarder cet article.
Encore ?
Oui, ça c'est toi. Non, je suis désolé, c'est toi.
Eh ben, c'est une info. Rien, voilà. C'est une info Nouvelle Obs. C'est une info Nouvelle Obs, pas prendre très au sérieux, puisque cette info est d'hier, hein, du 25 janvier 2012. EDF serait prête à associer son homologue chinois à la construction des réacteurs en France, selon des documents confidentiels que publie le Nouvel Observateur. Vous pouvez donc aller sur ce site en ligne et aller vérifier l'information. C'est ce que, pour ma part, j'ai fait juste avant Noël. Il faut bien comprendre qu'on avait des factions du nucléaire qui étaient en pleine bourre. Ça se tapait sur la tronche dans tous les sens. Il y avait l'espionnage de l'ex-patronne d'Areval, Auvergeon. Il y a 2 députés socialistes, Cazeneuve et Hérault, qui ont reçu la copie d'un document ultra-confidentiel qui est un protocole d'accord signé à Pékin. Le 29 avril 2010, donc ça fait déjà un bail, hein, entre le président d'EDF Proglio et celui du groupe CGNPC, qui est son équivalent, son alter ego chinois. Ils ont lu ces pages imprimées recto verso et les mecs ils sont un peu étranglés parce que quand ils ont vu la taille du partenariat envisagé, l'électricien chinois pourrait être associé à la construction de réacteurs en France. Alors là, branle-bas de combat, tout le monde flippe. On a regardé hier, Marie, pendant la préparation de cette émission, le bien fondé de ces textes, puisqu'on les a eus sous les yeux, les fameux courriers. Effectivement, il est mentionné que les Chinois pourront intervenir dans la construction, c'est bien précisé.
Ça veut dire qu'ils prendraient des parts dans la... concrètement, économiquement, dans la maîtrise.
C'est une privatisation de fait, hein. Faut bien comprendre ou rampante, peu importe. Alors, les deux députés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la plume, ils ont interrogé le Premier ministre. Le Nouvel Obs s'est également procuré le courrier. Alors, évidemment, grosses inquiétudes. Une entreprise chinoise pourra-t-elle demain construire des centrales nucléaires en France ? Areva sera-t-il placé par son propre gouvernement en situation de concurrence face à une entreprise publique chinoise ? 5 semaines ont passé, les élus n'ont toujours pas reçu de réponse. Et je ne sais pas comment vous avez obtenu cette lettre que nous n'avons pas souhaité rendre publique. Je la commenterai quand j'aurai reçu une réponse du Premier ministre, a dit le député. Voilà, c'est un peu le souk. Le gouvernement est très très embêté. En pleine campagne présidentielle, ça pourrait être assez gênant, surtout quand on se veut symboliquement défenseur du Made in France.
Ah oui, c'est... Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que parallèlement à cette maîtrise donc, de l'énergie, donc qui ne va pas s'arrêter du tout à le nucléaire, hein, tout le monde est très rassuré là-dessus, donc on peut voir le prix des énergies qui explose.
Bien sûr.
Et donc Proglio qui s'est exprimé, c'est des infos qui viennent du Canard Enchaîné, qui a quand même balancé une augmentation de 30%.
D'ici 2016.
Ouais. Alors c'est énorme, 30% d'ici, sur l'électricité évidemment, on ne parle pas ni du gaz, ni du fioul, ni tout ça qu'il y a déjà, sur l'électricité. Donc, et alors, en 2011, la facture des ménages a explosé de 9,3% sur un an.
Ah mais il y en a pour
an,
qui ça devient...
C'est énorme.
Ah ouais.
Alors pourquoi ça a augmenté comme ça ? C'est ça qui est intéressant, pourquoi ? Alors il y a une petite part, c'est les travaux de sécurité, de sûreté sur les centrales nucléaires à la suite du Fukushima. Bon, la modernisation du réseau de distribution. Ce qu'il y a surtout derrière, il y a eu la fameuse loi NOM.
Oh, c'est énorme, la loi NOM, N-O-M-E.
Alors, qu'est-ce que c'est la loi NOM ? C'est la nouvelle organisation des marchés de l'électricité.
Et oui.
Alors, ce truc-là, c'était censé ouvrir à la concurrence, donc aux autres opérateurs. Et, alors, il y a un truc un peu embêtant, c'est que donc EDF était obligé de revendre 25%, je crois,
de sa production.
Mm-hmm. EDF produit à 31 euros. Alors, il fallait bien fixer un prix pour que les gars rachètent. Mmh. Ils se sont mis d'accord avec... Proglio a fait son truc avec Besson. Ils vendent... EDF vend aux fournisseurs 42 euros le mégawatt.
Donc, ils font un bénéfice.
Ils font un super bénéfice. Ils font un bénéfice de 2 milliards par an là-dessus. Mais qui se retrouve avec ça à payer en plus ? C'est
le consommateur, forcément.
Entre 31 et c'est qui ? C'est nous. Alors...
Bien sûr, il n'y a aucun problème. Marie, c'est un sujet qui vient d'où ? C'est une info du canard, ça, non ?
Je l'ai signalé, comme toute bonne amateur.
Une info canard enchaîné.
Alors attendez, à ça se rajoute, parce que chacun se mange sur ce gros gâteau, hein, sur l'énergie, c'est fabuleux, quoi. Il y a la CSPE, la contribution au service public de l'électricité.
Oh bah oui, surtout qu'il va rester public très longtemps.
Ouais, ça va rester super public. Alors, au début, c'était 4,50 euros en 2009. C'est passé déjà à 9 euros en 2011. Ce truc-là va doubler, estime monsieur Ladoucette, qui est...
comme son nom l'indique.
Qui est patron monsieur Ladoucette, qui fait passer donc avec un peu de crème. Ça, c'est le gendarme de chez EDF, le patron de la commission de régulation de l'énergie.
Il y a des commissions, on sent fort en France.
Oh, ça, c'est stratifié, hein, le millefeuille. Hein. Donc là-dessus, ça va passer de 19 à 20 euros en 2016. Hein. Enfin bon, tout est comme ça. Et alors, il y a aussi la fabuleuse idée, donc, et Proglio explique ça quand même par la progression incontrôlée des charges liées au soutien aux énergies renouvelables. Excusez-moi, c'est pas Proglio qui le dit, c'est le rapport de la Cour des comptes.
Oui.
Alors, parce qu'évidemment, là-dessus, c'est tout le fric qui a été donné aux producteurs privés pour l'électricité solaire et éolienne hors de prix, sans aucun contrôle et sans aucun bénéfice écologique. Donc, ces trucs-là, voilà, tout mis ensemble. 30% d'augmentation d'ici à 2016, et mon avis, c'est une estimation basse.
D'une façon synthétique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être temps, effectivement, que tout le monde comprenne en urgence que l'énergie va devenir un levier de pression supplémentaire et fiscale. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on fait semblant d'un côté de ne pas trop augmenter les impôts, forcément, il faut récupérer de l'autre côté, puisque nous sommes, comme on le disait au milieu de cette émission, en déficit. À partir de ce moment-là, il faut trouver le fric quelque part. Le fric, on va le chercher où ? On va aller le chercher là où le mec, ou le citoyen, le mec, c'est nous, c'est
vous. On ne peut rien faire.
Je veux dire, entre notre bagnole et notre facture d'électricité et notre facture de chauffage, et on est mort, et la flotte. Donc si vous prenez les 4 postes cumulés, vous rajoutez là-dessus les communications avec le téléphone portable et internet, vous êtes tranquille, vous avez 80% du salaire qui dégage. Vous rajoutez le loyer, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc il y a un moment où effectivement, chacun va devoir intégrer très très vite, et à mon avis d'une façon un petit peu opposée idéologiquement à la sacro-sainte notion de croissance, le fait qu'il n'est pas question de s'éclairer à la bougie, mais qu'il va être très fortement question, et en urgence, tant que possible, pour ceux qui le pourront, de faire un maximum d'économies sur la part énergétique. Ça va être quelque chose de phénoménal.
Oui, mais alors tout est fait, évidemment, tout est fait en France. On est un pays où tout est fait pour empêcher...
Pour ne pas donner accès à l'indépendance.
Bien évidemment. Mais à un point, on en parle,
on en reparle assez souvent.
Mais c'est scandaleux, quoi. À ce point-là, c'est scandaleux.
Marie, un petit topo sur les agrocarburants.
Oui, alors pour continuer.
Bah oui, puisqu'on est dans
Ça, c'est dans les grandes idées, parce qu'en plus, les idées énergétiques. Donc, la Cour des comptes, toujours la Cour des comptes, hein, ça chope pas mal en ce moment, a donné son bilan. C'est une nouvelle AFP qui est tombée le 24 janvier, donc il n'y a pas longtemps. Que les biocarburants coûtent cher, que leur bilan environnemental est mauvais, et que les industriels ont touché 1,5 milliard d'euros depuis 2005 sur ce budget-là. Donc pour un truc complètement nul, qui a payé cette facture ? C'est nous, c'est le consommateur, une fois de plus. Hein, donc c'est dégueulasse et ça sert à rien. Et c'est nous qui avons payé 3 milliards d'euros de surcoût là-dessus. Bon, alors ça, c'est... Voilà. Et évidemment, ils ne mentionnent même pas le fait, la Cour des comptes là-dedans, donc dit que c'est dégueulasse, mais ils ne parlent même pas, évidemment, des paysans mexicains foutus dehors parce que pour faire du maïs... J'ai encore, non, j'ai plus.
On parlait, simplement pour rebondir ce que tu disais, on parlait du non-accès à l'autonomie, c'est-à-dire le droit pour les individus de dénoncer le fait que actuellement seul l'industriel a le droit de développer les énergies renouvelables, alors qu'en réalité ça devrait être un plan où si on était dans quelque chose de cohérent, on devrait, si l'État voulait faire d'ailleurs énormément d'économies et non pas du business, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire par le biais des 80% de taxes qu'il prend sur le pétrole et équivalent, on développerait évidemment l'autonomie et la possibilité, l'accès énergétique pour le particulier. Donc dans ce cadre-là, il y a une grande manif qui est organisée, une grande manif sur l'éolien qui est organisée à Toulouse. Ça tombe quand, ça ?
Alors ça tombe, c'est demain, pour ceux qui ne...
Demain vendredi, donc.
Demain vendredi, c'est à 13h devant la préfecture de Toulouse. Pour ceux qui peuvent venir, c'est très bien. C'est clairement contre l'éolien. Hein. C'est,
l'éolien industriel ?
L'éolien industriel, puisque je vous rappelle qu'ici, dans la région qui on est déjà pas mal tartiné en Aveyron, ils vont nous ont tartiné quand même 200 des éoliennes de 150 mètres de haut, soit la moitié d'une tour Eiffel, derrière le Rougier de Camarès, et moi je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pas pour l'écologie que c'est fait, quoi.
Un petit topo sur la loi, qu'est-ce qu'il y a de spécial, de spécifique sur la loi sur la récupération de l'eau?
Alors,
parce qu'on est toujours dans la même logique là.
Toujours dans ce pack, oui, parce que comme logique. Tu disais, attends, tu insistais sur le fait qu'on soit pas autonome. C'était, tout est fait, tu as insisté sur le business, tout est fait pour qu'on rack. Sinon, par exemple, l'huile de friture serait permis. Il y a des lois contre les trucs. Alors dans la loi contre l'indépendance sur l'eau, c'est très intéressant. J'ai découvert, je ne savais pas, que la récupération d'eau de pluie, qui est un truc très bien, eh bien, elle a fait l'objet d'une loi il y a très peu de temps. Donc on est obligé de déclarer maintenant en mairie, il y a des paquets de déclarations à faire. Tu es obligé de déclarer que tu récupères ton eau de pluie.
Ah mais il y avait la DAS déjà qui intervenait, hein, c'était sévère. Hein, voilà, pour avoir sans clapet anti-retour et compagnie.
Interdiction évidemment de consommer. Non mais c'est là l'État s'immisce dans la vie privée. À un moment tu dis arrêtez le flicage. Quoi. Ah,
mais c'est là qu'on mesure la vérité de notre démocratie aussi, hein, quelque part. Hein, tu vois,
De consommer ton eau de pluie. Bon. Et...
On peut comprendre ceci dit.
Alors, ce qui est encore plus vicieux là-dessus, c'est surtout, je ne savais pas, mais moi, parce que je tombe un peu des nues là-dessus, quand il y a un réseau d'eau publique existant, que tu l'utilises ou pas, hein, par exemple, imaginons un gars, il va construire sa cahute, il va récupérer sa flotte de pluie, et il va se débrouiller pour être autonome là-dessus ou se faire un petit puits. Évidemment, maintenant, le forage aussi, et on sait que c'est obligatoire de le déclarer. Eh bien, il est obligé de se raccorder au réseau public s'il y en a un, s'il ne l'utilise pas, puisque c'est des taxes qui ont été inventées.
L'autonomie sur l'eau n'est plus possible. Le type qui veut prendre sa source, mettre un appareil autonome, mettre des clapets anti-retour pour ne pas réinjecter dans le réseau public, il n'a pas le droit de le faire, grosso modo. Hein, c'est extrêmement. Toilettes sèches, c'est compliqué. Donc,
il peut faire ça, peut faire ça, mais sauf qu'il va falloir quand même qu'il se paye la tranchée pour aller se raccorder à un réseau public et payer la taxe, etc.
Il pourra
enlever son abonnement s'il s'en sert pas après, mais il faut qu'il fasse ça.
Mais
c'est
plein pot, hein, les raccordements.
Hallucinant, et plein pot, quoi. Voilà.
Parfait, moi j'en ai ailleurs. J'en ai deux petites. Il y a une manif à Rodez devant l'inspection d'académie le 25. C'est aujourd'hui le 25. Non, c'était hier. Alors c'était hier, il y a eu une grosse manifestation devant l'inspection académique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on continue de dégager des postes dans les écoles de l'Aveyron. 25 en l'occurrence pour la rentrée prochaine. Ça passe plutôt mal. Ça s'est d'ailleurs pas très très bien passé. Il devait y avoir un comité technique paritaire départemental, encore un grand mot. La réunion a tourné court. Les syndicats ont décidé de boycotter la rencontre avec l'inspecteur d'académie. Citons-le, Monsieur Patos. Oh, Monsieur Patos, qui commence à avoir une réputation qui le précède dans notre bon pays. On lui fait une claque amicale à Monsieur Patos. Une nouvelle rencontre a été programmée jeudi. Cette fois, les syndicats, c'est donc aujourd'hui, cette fois, les syndicats devraient y participer pour défendre chaque école. Ça suit son cours. De toute manière, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que tout le monde est un petit peu en attente, justement, d'autres propositions et d'une autre logique pour éviter le démantèlement de notre école. Dans la deuxième chose qui me tenait à cœur, je remets un petit topo. J'en ai parlé déjà. À mon avis, on en reparlera sur ce problème de flotte à Saint-Paul-des-Fonds, puisque ça nous concerne directement. Ça concerne Saint-Paul-des-Fonds, mais ça concerne l'ensemble du bassin, puisqu'il s'agit purement et simplement de laisser s'infiltrer dans le karst, sur le dessus de Saint-Paul, plus exactement en bord Larzac, de laisser s'infiltrer les effluents de stations d'épuration, avec évidemment tous les problèmes que l'on connaît, que ça peut poser. Alors il faut savoir qu'il y a eu une réunion publique qui a été organisée par la mairie à la demande des habitants habitants, mais je pense qu'elle l'avait anticipé, Madame le maire, Madame Fouquier, pour ne pas la citer, qui se présente d'ailleurs, c'est très intéressant, sous l'étiquette écologiste Europe Écologie Les Verts. On ne manquera pas de lui rappeler à cette occasion que c'est un dossier intéressant pour elle. Elle a donc organisé, cette dame, une réunion publique un jeudi à 14h, pour être sûr qu'il y ait évidemment un maximum de monde. Les gens, c'est bien connu, ne travaillant pas à cette heure-là, ni ce jour-là. Il y avait un monde fou, mais particulièrement des grands responsables, des ce qu'on appellera, ce que l'on qualifie sur cette antenne de tête de nœud, qui ont pris les gens pour des cons, qui les ont regardés de haut, qui ont rigolé à chaque question posée. Pourquoi ? Parce que nous sommes les sachants, nous avons le savoir, et donc taisez-vous, bande d'impétents, comme dirait l'autre. Grosso modo, pour faire un peu moins caricatural, la fin de non-recevoir opposée, mais non, vous n'avez rien compris, les effluents maintenant, les effluents de centrales sont propres. Il n'y a aucun problème, c'est une centrale de traitement de dernière génération. Vous n'aurez aucun problème bactériologique, vous n'aurez aucun problème avec le suite médicamental.
Le desktop, les hormones et tout ça sont
tout ça, ça passe maintenant, c'est absolument nickel. Et en plus, ces gens-là ont la justice pour eux, puisqu'ils respectent parfaitement les normes européennes sur le traitement. La norme européenne sur le traitement de l'eau, qui est un grand foutage de gueule. Il faudrait voir les normes que ces gens-là ont fixées concernant la potabilité. Mais plus exactement, la plus forte, je dirais, chose qui nous a été opposée, ça a été de dire, mais de toute manière, cette eau n'était déjà pas potable, vous n'avez pas à la boire, donc on s'en fout.
Ah super. Ah, c'est pas vrai.
Non, mais c'est de cet ordre-là, je caricature
à
peine.
Tu sais quoi, la prochaine fois, vous leur dites, bah écoutez les gars, vous mettez votre station, vous les amenez sur une station, puis vous leur demandez de boire un verre d'eau à la sortie de la station. J'espère que c'est intéressant de le faire.
Je raconte l'anecdote, mais on ne peut rien y faire, on est comme des cons, nous sommes des citoyens.
Mais tu as dit le mot justice, mais c'est pas justice là-dedans, c'est gros sous qu'il y a, c'est pas justice.
Et on peut pas s'opposer. On ne peut pas s'opposer à moins d'avoir un collectif d'avocats. On est face à des mecs, ils ont quatre avocats. Rien que les mecs qui ont monté, le mec qui a monté la centrale au-dessus, il a quatre avocats. Qu'est-ce que tu veux faire?
À chaque fois, comme les éoliennes, c'est des petits gars. On se regroupe à chaque fois. Un procès contre une éolienne, ça coûte 5000 euros.
Et
on se met du fric dans la. Et on sort tous. Et il n'y a que ça. Et c'est très moche.
C'est une belle démonstration de l'impuissance, je dirais, du citoyen. Surtout quand le même citoyen a des difficultés à se mettre d'accord sur les objectifs, sur les choses comme ça. Parce qu'évidemment, on retombe dans la nature humaine, on a une émission sur les groupes, donc des gens qui ont des intérêts divergents, des communications différentes, enfin tout ça, ça donne un espèce de bordel incommensurable. Moi je suis absolument désolé pour la flotte de Saint-Paul-des-Fonds, on n'a absolument rien, on ne peut absolument rien faire, et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parmi l'éolien et les choses comme ça. Bon, on va se faire quand même une petite coupure, hein, parce que là il y en a marre de parler des choses tristes. Marie, qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, on écoute un truc qui est formidable, qui a une très belle pochette et que je sais plus où j'ai mis.
Bon, Philippe, qu'est-ce qu'on écoute? Bon, bah attends, bouge pas, je crois que c'est moi qui dois l'avoir. Ça s'appelle Kabadzi. Alors, comment c'est le titre de l'album, Marie?
Je vais pouvoir le citer, c'est Kabadzi, sur l'album Digère et Recrache.
Et le titre?
Et on écoute le titre, c'est Trader.
À tout de suite.
Marie adorable, monsieur tout le monde quitte chaque matin son domicile sous l'œil bienveillant de ses voisins. Quartier chic et tranquille pour familles épanouies, une vie douce et sans soucis. Mais qui se douterait? Qui se douterait? Il n'a pourtant ni fusil ni couteau. Pourtant, on ne lui reprochera rien. Monsieur ne fait que voguer de présage en présage. Monsieur ne fait que prélever les petits dividendes du temps. Malheureuse ne le concerne pas. D'indice en devise, le trader funambule erre sur le fil des besoins. Un à un, en avare assoiffé, il pille, enflamme, détricote les marchés, sans se soucier le moins du monde, des pays affamés. ouragan, sonné de traders cocaïnés. Bande sanguinolente en vitrine, gros du peuple bouché. Monsieur le sait, monsieur s'en fout, c'est comme ça, monsieur tente tout. Ici nous n'inventons pas, nous ne fabriquons pas, nous ne produisons pas, monsieur. En guise d'excuse, on aménage la pauvreté, on repeint les cages d'escalier. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. Il achète, il vend, il achète, il vend. Des usines à la rue, des charniers de famille, une loterie continue. Et pendant ce temps-là, on laisse les pauvres.
Voilà, retour sur les tontons flingueurs pour une petite dizaine de minutes en direct, 10h49 en ce jeudi matin. Je rappelle la rediffusion, 19h-20h le jeudi, 16h-17h le samedi. J'en profite pour faire un gros merci à Phil qui nous fait la technique et qui a profité de cette petite coupure pour un deuxième erratum. On avait parlé évidemment de...
Décidément Gilles, vraiment c'est n'importe quoi.
On raconte
quoi,
n'importe quoi. Anne-Sophie Lapix qui s'est cartonné Le Pen, c'était pas sur M6, c'était sur Canal+. Voilà, rectification faite et merci Philippe pour l'info. Dernière partie de cette émission, donc je vous disais, dans quelques minutes on va vous parler un petit peu du super week-end culturel du 10 et 11 février dans la région, mais tout de suite un petit topo quand même sur ce qui vient de se dérouler entre la fermeture de Mega Upload, des Anonymous. Là c'est évidemment, on s'adresse aux utilisateurs d'internet et ou aux gens qui s'intéressent un petit peu à, je dirais, cette société parallèle qui est sur le web. Pourquoi présenter comme ça cette société parallèle? Parce que il y a une espèce de radicalisation qui est en train de se passer sur le web et qui ressemble quand même pas mal à la radicalisation qu'on ressent dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Alors, Mega Upload, c'était, bon, vous le savez maintenant, vous l'avez entendu 300 fois, un site de téléchargement illégal, composé en réalité également d'une partie légale, mais ça c'est un autre point. Il est hors de question de défendre ces gens-là parce qu'il y avait une partie même quasiment mafieuse derrière, des types qui se sont gavés, qui ont gagné des milliards de dollars, des millions de dollars, pour pas exagérer, sur ce truc, avec la publicité intégrée, ainsi de suite, c'était pas propre du tout. Et on a vu après la fermeture donc de Mega Upload par le FBI. Si vous allez sur leur site aujourd'hui, vous avez un panneau FBI, c'est assez fun, les mecs ils doivent être contents de leur page d'accueil. Vous avez une riposte internationale d'un groupe qui s'appelle les Anonymous. Et les Anonymous, qui commencent à faire parler d'eux depuis quelques temps, sont des gens qu'on n'arrive pas à détecter. Ils sont un peu partout sur la planète, planqués derrière des serveurs, avec des logiciels. Ce sont des hackers, mais ce sont des hackers qui ont la prétention, on va dire, de défendre un petit peu la liberté individuelle. Alors, les Anonymous, bah, eux, ils ont attaqué aussitôt le site du FBI, ils attaquent assez souvent le site de l'Elysée. Enfin, voilà, ils se font plaisir. Les mecs, ils envoient des par surcharge, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent pour qu'il y ait des centaines de milliers de requêtes en même temps, ce qui, évidemment, pose un problème aussi serveurs hébergeurs, et tout ceci fout la zone. Alors nous, ça nous a quand même intéressé d'essayer de comprendre un petit peu derrière tout ça, parce qu'on entend souvent le mot auteur, droit d'auteur. Voilà. On entend aussi parler souvent de la fameuse loi Hadopi, créée par le gouvernement Sarkozy. Donc on a eu envie de voir un petit peu en réalité qu'est-ce qu'il en est de ces droits d'auteur, pourquoi il y a une telle défense finalement des droits d'auteur actuellement, et qu'est-ce qu'il y a de réel. Alors, l'axe intéressant, c'est la fameuse loi Hadopi, parce que finalement on en a parlé brièvement avant sa sortie, mais on n'est pas revenu dessus, parce que maintenant on a du recul. Il y a eu Hadopi et Hadopi 2. Hein. Alors, Hadopi, c'est...
C'est parce que c'était pas assez compliqué, Hadopi. Voilà. Donc Hadopi 26.
Voilà, Hadopi, c'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Grosso modo, c'est la loi Hadopi qui a créé cette autorité. Hein.
Il y a des gens quand même qui sont payés pendant ce temps-là, pendant des mois et des années, à fabriquer ces lois. Alors moi, ça, c'est un truc qui me sidère, parce qu'ils sont, je ne sais plus combien à bosser dessus, des dizaines de gens. Il faut arrêter, quoi. Non, les lois en France, moi, j'en ai ras-le-bol. Quoi.
Marie, d'accord là-dessus, mais là où ça va encore plus loin, c'est que la loi Hadopi 2 a été déclarée partiellement non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et qu'elle a été appliquée. Nous sommes donc actuellement avec une loi sur laquelle on pénalise des gens non conformes partiellement à la Constitution. Voilà. Pour quelle raison? Très intéressant. Le Conseil constitutionnel, lui, en 2009, ça remonte donc à un petit moment, a estimé que la restriction d'un droit fondamental tel que la liberté d'expression ne pouvait pas être restreint par une simple autorité administrative et que seul un juge et un procès équitable pouvaient décider de le restreindre en constatant un éventuel abus, tout en gardant une sanction proportionnée, bien sûr. Alors, grosso modo, cette loi permet à Hadopi de transmettre actuellement au juge toutes les informations dont elle dispose afin de prononcer une sanction de coupure au moyen d'une procédure accélérée uniquement écrite, sans audition de l'accusation ni de la défense. Mmh. Donc, nous ne sommes plus égaux devant la justice. Il faut rappeler d'ailleurs que la procédure accélérée, c'est une exception au droit français, hein, qui est essentiellement utilisée pour traiter les procès-verbaux de stationnement et d'excès de vitesse. C'est intéressant de le rappeler par la même occasion quand même, parce qu'on voit comment est faite la loi en France, que quand ça arrange tout le monde. Alors, là où moi je me suis vachement marré, c'est que nous avons une analyse d'un journal d'Hadopi, mais qui le descend en flèche, mais là où c'est très bon, c'est que c'est le Figaro. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des députés UMP qui trouvent cette loi absolument débile, le Figaro, des heures de débat, des successions de coups de théâtre, des empoignades en série pour une loi qui ne tient pas compte des dernières évolutions d'Internet, c'est le brillant bilan de la loi Hadopi, censée éradiquer le pirate en s'attaquant au peer-to-peer, c'est ce qu'on appelle le téléchargement entre personnes, hein, grâce à une riposte graduée. Or, la part d'échange de fichiers dans le trafic Internet est en chute libre. Il y a des gens qui ont fait des études extrêmement poussées là-dessus. Alors, si les gens n'échangent plus de fichiers entre eux, Hadopi ne sert plus à rien, puisque son objectif, c'était de récupérer du fric là-dessus. Alors, grosso modo, 2 ans après, les mecs, ils se rendent compte que le peer-to-peer s'est passé de 40 à 18%, donc vraiment un vrai casse-figure. Ils se sont rendus compte que les gens avaient maintenant d'autres moyens, c'est-à-dire qu'ils allaient justement sur méga-upload. C'est là qu'est ce qu'on appelle du streaming, c'est différent. Les gens ont trouvé un autre moyen.
Tu regardes en direct, en fait, voilà, vous regardez en direct et vous n'avez plus à télécharger les documents. Parce qu'on parle principalement des films, quand même. Hein. C'est le gros succès en dehors de la musique. Ouais, mais la musique, comme on la télécharge. Ouais. Mais c'est surtout le film, c'est l'industrie du film qui s'en prend plein la figure.
C'est très bien que tu précises ça. Alors face aux nouvelles pratiques, évidemment, Hadopi est totalement dépourvue, c'est-à-dire que ça n'a plus le moindre sens. Elle avait été taillée, la loi, essentiellement pour dénicher les internautes sur les réseaux d'échange, de ce qu'on appelle donc de peer-to-peer. Par contre, la loi, c'est impossible techniquement de dénicher des internautes sur des sites de streaming ou de téléchargement direct. Sauf à vouloir traquer tout le trafic chez les fournisseurs d'accès en amont. Alors je ne vous raconte pas la tronche du débat parlementaire qui va s'annoncer derrière. Les 3/4 des plateformes sont situées à l'étranger. C'est absolument impossible d'intervenir. Donc la loi Hadopi est totalement bidon.
Oui, et puis surtout, c'est personne n'a jamais mis en branle un tel truc. Parce que comme je disais, ça doit coûter la peau des fesses de faire cette loi à la con. Là,
ah
oui,
mais
complet, rien,
complet.
Qui doit être menée par des vieux barbus, barbons, excusez-moi. Pas barbus, peut-être barbus, sur quoi, on ne sait pas. Mais ça, on n'en sait rien.
Elle est jolie celle-là, ouais.
Et qui est complètement à côté de la plaque. Tout ça, pourquoi ? Pour rapporter rien et c'est aberrant.
Alors, tout ça, l'excuse, c'est les droits d'auteur. Alors, très brièvement, l'excuse, c'est les droits d'auteur. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui ont parfaitement compris que tout ça, c'était pour protéger les industriels du disque installé. On ne va pas faire l'émission là-dessus, mais c'est une évidence pour beaucoup de gens. Et la question qui se pose aujourd'hui, nous, de par nos métiers auteurs, on fait de la musique, bon, on balance, la radio est confrontée au problème de droits d'auteur. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des moyens de gérer autrement ? On a trouvé un exemple vachement intéressant dont on va vous parler très brièvement qui s'appelle Jamendo. Jamendo, c'est une plateforme qui propose à des artistes de laisser leurs morceaux et si quelqu'un veut écouter, il peut. Si quelqu'un veut télécharger, il lui est proposé de faire un don. Et il nous paraissait beaucoup plus intéressant de suggérer comme ça, de rendre les gens citoyens et de leur faire comprendre qu'il est normal de verser un petit quelque chose et chacun fait en fonction de ses moyens. C'est plus ce genre d'esprit qu'on a envie de voir développer.
C'était super, c'est toi qui me l'as fait découvrir. On va peut-être donner
Jamendo.
Le...
J-A-E-M-E-N-D-O, vous pouvez aller voir, c'est extrêmement intéressant comme alternative sur la protection des droits d'auteur.
Qu'est-ce que tu as dit?
J-A-M-E-N-D-O.
Ah oui, ça s'écrit bien
Jamendo.
Comme ça.
On est désolé, on va être obligé de faire très bref là-dessus, mais on y reviendra parce que franchement, il y a d'autres options sur la gestion des droits d'auteur, il y a des alternatives, il y a des gens qui ont pris le pari du CD gratuit. On va pas avoir le temps aujourd'hui parce que moi, je tiens absolument à terminer quand même par le week-end culture du 10 et 11 février. Le 10, le Café du Commerce propose une soirée appelée Musique Partie 3, donc 3e édition, qui se déroule tous les 2 ans dans les différents bars de Saint-Afrique. Le principe, c'est un espèce de tremplin. Vous avez 7 à 8 groupes qui se réunissent, 40 à 45 musiciens qui viennent jouer dans tous les styles de musique d'une façon progressive. Ça commence à 17h le vendredi 10 février, on en reparlera. Ça se termine à 1h du matin et c'est au Café du Commerce. Le lendemain, le 11 février, Boucherie La Sossoye organise à Saint-Rome-de-Tarn un équivalent de petit festival aussi, le samedi 11, ça commence à 20h. Il y a également une dizaine de groupes. On est très content, ça va faire un sacré week-end. Et là où on nous dit souvent, ouais, Saint-Afrique, nanana, en plein milieu de l'hiver, les gens se secouent, il va se passer des trucs, donc voilà quoi, on en reparlera la semaine prochaine. Ouais, on en reparlera la semaine prochaine. Préparez votre week-end le 10 et le 11 février, restez dans le coin, c'est juste avant les vacances scolaires. Marie, il reste 30 secondes pour faire un gros bisou.
On va s'embrasser.
pour vous dire à tous à la semaine prochaine. Merci encore Philippe à la technique. Bon voyage à Gilles Margerand qui nous écoute peut-être encore à quelques 3-4 000 km de chez
nous. Des bisous Gilles, moi je t'embrasse avec plus de plaisir que ce Gilles là.
Bisous, oh l'enfoiré. Bisous à tous, auditrices, auditeurs. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Radio Saint-Afrique. Restez avec nous.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
oublié. Il dispense en amende. Pour la tarte. Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.